Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Yosef Haïm Sitruk. Bonne écoute et bon limoud.
Et en introduction, une toute petite histoire que j'ai déjà racontée à un chiour. Il y avait un jour, au bord d'une plage, un petit garçon. Il regardait vers le large et faisait comme ça des grands signes vers le large. Alors, il y a un monsieur qui s'approche de lui et qui lui dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Il dit « Je salue le bateau qui est là-bas au large, à plusieurs kilomètres de là. » Passer un paquebot. Alors, il dit, qu'est-ce qu'il fait ? Je salue le capitaine. Alors, le monsieur lui dit, mais comment veux-tu qu'un le capitaine d'un navire aussi imposant se préoccupe d'un petit garçon qui s'agite sur une plage ? Il dit, oui, il me regarde, parce que le capitaine, c'est mon papa. C'est la fin de l'histoire. Hein. Mais quel est le sens de cette histoire ? On pourrait imaginer, à juste titre, le capitaine du bateau ici symbolise le maître du monde, Ribono Shel Olam, qui est loin, si j'ose dire, dans les cieux, à des milliards d'années-lumière, et la Terre est une petite boule dans l'immensité de l'espace. Et sur la Terre, bon, on est quand même 7 milliards de personnes. Et nous, on est ici au Salon Roche, une petite poignée de ces 7 milliards. Imaginons qu'on veuille communiquer avec Akadosh Baruch Hu. Quel extraordinaire émouna il faut avoir pour être sûr qu'il nous écoute, qu'il nous regarde, qu'il s'intéresse à nous. Mais notre conviction, c'est bien celle-là. Il existe dans la Torah ce qu'on appelle la providence individuel, Ashgacha Pratit en hébreu, qui fait que le Créateur s'intéresse, se préoccupe et participe à la vie de chaque être humain. C'est très rassurant, très réconfortant. Ça galvanise l'être humain. La prochaine fois, mademoiselle, deux conseils. Ou bien venez à l'heure, ou bien enlevez les talons avant d'entrer. Ceci étant, soyez la bienvenue. Elle a fait une entrée classe, la vérité. Hein. Maintenant, le tout, c'est de ne pas rater la sortie. Donc, je disais que c'est très réconfortant de savoir que Hachem est tout proche de nous, qu'on peut donc lui parler. Chacun d'entre nous ici a ses soucis, ses problèmes, ses joies, ses espérances, ses projets. À qui voulez-vous qu'il en parle? Même notre famille s'ennuie au bout de quelques minutes. Même nos amis font semblant de s'intéresser et décrochent au bout d'un moment. Qui est-ce qui nous écoute 24 heures sur 24, toute l'année, quelle que soit la nature du propos, notre Créateur. En plus, ce n'est pas seulement qu'il nous écoute, c'est que lui, il peut intervenir dans notre vie, il peut la diriger, l'orienter, dans le sens qui lui paraît bon. Je voulais commencer par dire cela parce que bon, bien sûr, je pense à un couple qui est en train de se marier, mais aussi à chacun d'entre vous. Vous dire que, surtout, n'hésitez pas à parler à votre Créateur, à notre Père. On appelle à Kadosh Baruch Hu Avinu Shebashamayim, comme le capitaine qui est le papa du petit garçon. Kadosh Baruch Hu, c'est notre Père. Un Père inattentif aux propos de ses enfants. Donc, n'hésitez pas à vous adresser à lui. Soyez gentils simplement pendant le cours à voix basse, comme ça vous gênez pas les voisins. Mais autrement, extraordinaire, pas besoin de prendre rendez-vous, de demander audience, d'espérer une réponse. La réponse, elle est là avant de poser la question. C'est notre conception de Hachem, l'infiniment grand et l'infiniment proche. Il est donc avec nous. Ceci nous permet de citer un verset de la Torah qui a dit « Qui a un Dieu proche de lui comme Israël ?» La Torah elle-même. Ça veut dire que la caractéristique des relations entre Dieu et Israël, c'est la proximité. « Karov ». Et cette constatation a de considérables incidences. Un homme qui vraiment est convaincu de ce que je viens de dire, d'abord il n'a jamais peur. Imaginons qu'il marche seul dans la nuit dans une forêt sombre, et qu'il entend au loin les hurlements des loups, quelle angoisse ! Pas une seule lumière, qu'il est malheureusement, il tombe dans un guet-apens, il est attaqué. Pas d'angoisse. Il est en train d'exulter parce que dans sa vie, il y a un énorme événement qui le transcende. Il n'est pas seul à le vivre. C'est comme cela que nous percevons Akadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, le mot même Akadosh Baruch Hu, qu'on traduit en bon français, le Saint, béni soit-il, exprime ces deux notions. Kadosh veut dire sacré, donc séparé. Un endroit qui est kadosh n'est pas, ne tolère pas notre utilisation personnelle. Une synagogue est kadosha, un sefer Torah est kadosh, on ne peut pas en faire n'importe quoi. D'après la halakha, par exemple, on ne peut pas entrer dans une synagogue pour s'abriter de la pluie. Quelqu'un qui est pris dans un orage, comme il est tombé tout à l'heure, il peut me dire, tiens, je vais rentrer à la synagogue, m'abriter. C'est un manque de considération pour la synagogue qui n'est pas là pour mes besoins personnels. De même à Sefer Torah, on ne peut pas, si on a froid, se couvrir comme d'un vêtement avec un Sefer Torah. Sefer Torah est consacré. Cette notion-là, donc, c'est Akadosh. Et que veut dire Baruch ou Baruch veut dire le béni. Mais béni, ça veut dire celui qui est à mon écoute, proche, qui est là pour me bénir. Pour que quelqu'un me bénisse, faudrait-il encore qu'il sache de quoi j'ai besoin. Souvent, certains parmi vous me demandent, après les cours, de leur donner une bracha, ce que je fais toujours avec plaisir et avec émotion et concentration. Mais souvent, je demande aux intéressés à quel sujet. Généralement, je connais la réponse, mais je demande parce que je ne sais pas, je suis un homme comme vous. Tandis qu'Hachem, il est à la fois transcendant et proche. Il est dans notre cœur. « Ki karov elecha davar beficha ou bidvavecha » La Torah est proche de toi, elle est dans ton cœur, dans ta bouche, pour que tu la fasses. Jamais on n'aurait pu être le peuple que nous avons été et que nous sommes sans cette conviction absolue. Vous savez, je raconte souvent cette fameuse histoire qui est authentifiée par les historiens de Voltaire, qui était donc un philosophe français bien connu pour son agnostisme et qui notamment ne prétendait ne pas croire en Dieu et qui n'aimait pas beaucoup les Juifs. Dans son dictionnaire encyclopédique, sous l'article juif, il lit des choses très désagréables nous concernant. Et il termine en disant « Mais il ne faut cependant pas les brûler. » Genre Zama, il est tolérant. Un jour pourtant, pour gagner sa vie, il était un des membres de la cour du roi de Prusse. Un jour, le roi, qui aimait avoir avec lui des sages, des philosophes, des artistes, le fait venir et lui dit « Monsieur, pourriez-vous me donner en un mot la preuve de l'existence de Dieu ?» Et Voltaire répond « Oui, sire, les Juifs. » Même le roi était surpris. Il dit « Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?» Et il s'explique. Et son explication est demeurée célèbre. Il dit « Comment expliquer qu'un peuple aussi petit, aussi dispersé, aussi divisé, aussi persécuté, aussi haï par toutes les nations, ait pu résister pendant des millénaires à ces conditions impitoyables, si ce n'est que Dieu le protège. » En d'autres termes, la réponse de Voltaire, qui était fort pertinente, consistait à dire « La preuve de l'existence de Dieu, c'est les Juifs. » On ne peut pas expliquer autrement l'histoire juive. Elle est surhumaine. Aujourd'hui encore, comment comprendre que l'État d'Israël puisse subsister? On peut toujours dire, bon, les soldats israéliens, ils sont très performants. Les Américains, c'est nos copains, d'accord? Vous savez ce que c'est? Près de plusieurs centaines de millions d'Arabes qui entourent Israël et qui ont juré sa perte. Qui ne rêvent que de ça, qui tous les jours et toutes les nuits fomentent des plans pour essayer de détruire Israël. Ils nous ont fait la guerre dès 48, puis deux fois, puis trois fois, puis quatre fois, puis cinq fois, puis six fois, et on les a toutes gagnées. Alors évidemment, deux réactions parmi le peuple juif, certains qui bombent le torse en disant « We are the best », on est les plus forts, on est les meilleurs, voilà pourquoi on a gagné. Et d'autres, finalement très nombreux, qui disent non, tout simplement. Hachem est avec nous. C'est lui qui nous protège. Je crois que la réponse est bien là. De ce point de vue-là, l'État d'Israël est le prolongement de l'histoire juive, où un peuple vit dans sa fragilité une existence héroïque qu'il doit à son Créateur. Je vous recommande de bien méditer sur ce que je viens de dire. Il faut apporter cette réponse partout. Les gens qui prétendent que la défense d'Israël s'explique par les raisons matérielles, stratégiques, militaires ou politiques, non seulement commettent une erreur grave, je dirais presque qu'ils blasphèment. Israël est là pour prouver que Dieu existe. Nous l'avons été en tant que peuple, nous le demeurons en tant que nation. Bien. Ça, c'était l'introduction pour attendre les retardataires. Non, c'est pas vrai. Je voulais vous en parler, j'ai dit, autant le dire au début. Et à présent, je vais donc essayer avec vous de réfléchir sur, évidemment, l'événement dans lequel nous sommes. Et celui qui se prépare, nous sommes dans le mois de Nissan, et se prépare la fête de Pessah. De cela, je voudrais donc faire le thème de ce cours, en vous expliquant d'abord la nature unique du mois de Nissan. Le mois de Nissan est un mois dans lequel, évidemment, on a été libéré d'Égypte, et dont la tradition orale dans la Gemara dit « Benissan igalou » Bénissan Atilin les Gaël. De la même manière qu'on a été libéré, délivré en Nissan, ainsi en sera-t-il à la fin des temps pour la délivrance ultime de la fin des temps. Elle aura lieu en Nissan. Donc il convient d'être bien préparé à ce que d'un coup, on vient nous dire ça y est, le Mashiach est là. Il se pourrait que d'ici la fin du cours, on annonce sa venue, auquel cas je vous demanderai de bien vouloir l'accueillir avec toute la déférence qui lui revient, et pas faire trop de bruit quand il est là, parce que nous on est en famille, mais s'il est là, c'est chaud là, de chahuter à ce moment-là. Donc, Issan, le mois de la Géoula. Maintenant, à l'origine, c'est ça. Mais pourquoi le mois de Nissan reste quand même le seul mois où pendant 30 jours consécutifs, on ne récite aucune prière de tristesse. On ne dit pas de tahanoun, de supplication. On ne fait pas d'élégie funèbre. On ne jeûne pas. C'est un mois qui est consacré à la joie, à la fête. Le Rav Ovadia Yosef, c'est un sadik d'Ivracha, donné à cette anomalie, j'ose dire dans le bon sens, l'explication suivante. Le premier Nissan, comme la Torah l'indique elle-même, a été inauguré dans le désert, à l'époque de Moshe Rabbeinu, le Mishkan, le temple portatif. C'est un jour de joie pour tout Israël. Et puis ensuite, pendant 12 jours consécutifs, donc du 2 au 13, toutes les tribus, les chefs des tribus, les Nessim, ont porté à tour de rôle, comme la Torah toujours le raconte, un korban, un sacrifice, un jour de fête pour tout Israël. Ça nous amène à 13 jours de fête au 13 Nissan. Le 14 Nissan était lui, d'ailleurs jusqu'à ce jour, il y a des communautés dans lesquelles on récite tous les matins le passage afférent dans la Torah au korban du Nassi de la journée. Honnêtement, excusez-moi, j'ai oublié de réviser à quel Nassi nous sommes aujourd'hui. Enfin, comme apparemment, ça n'a pas beaucoup d'importance pour vous, on va donc zapper. Puis après arrive le 14 Nissan. Le 14 Nissan, c'est la veille de Pessah. C'est un très très grand jour dans lequel le peuple tout entier offrait le Corban Pessah. Hein? Ah. Ouais. Alors aujourd'hui, le septième jour, grâce à la perspicacité des Ephraïm et grâce à l'informatique, on a trouvé que c'est le jour de la tribu de Ephraïm. Vous comprenez pourquoi il l'a trouvé. Et le Nassi, c'était... Comment il s'appelait le Nassi? Elishama ben Abioud. C'est la classe, hein. Donc, le 14 Nissan, veille de Pessah, était le jour où tout le peuple d'Israël venait à Jérusalem pour offrir le Corban Pessah, qui s'offrait, vous le savez, par famille, et qui constituait l'occasion d'une très très grande fête, très grande joie. Ensuite arrive la fête de Pessah, pour en parler, qui elle allait du 15, elle dure 7 jours d'après la Torah, au 22 Nissan. Ensuite reste de nouveau 7 jours jusqu'à la fin du mois, qui sont réservés, d'après le Rav, selon un Midrash, à la fête de la fin des temps. Car en effet, on a dit tout à l'heure que la Géoula finale aura lieu en Nissan, et on aura à ce moment-là une nouvelle fête. Ce ne sera pas Pessah, ce sera la fête de la Géoula, qui aura lieu donc après. On fera le pont. Donc, les derniers jours de Nissan sont réservés à cette fête, l'Atid Lavo, comme on dit en hébreu, qui est programmée dans le futur. Voilà pour la particularité du mois de Nissan. À présent, je reviens sur le verset de la Torah qui introduit le mois de Nissan. Dans le chapitre 12 de Shemot, Parasha Bo, il est dit « Achodesh Hazeh, Rosh Chodashim, Lechodshei Hashana ». Ce mois-ci est le premier de tous les mois de l'année. C'est d'ailleurs, en passant, la première mitzvah que les Juifs ont reçue en sortant d'Égypte. Ça veut dire quoi le premier? Tout simplement que l'on décompte à partir de lui. Le premier mois de l'année, ne vous trompez pas, c'est pas Tichri. C'est Nissan. La Torah, quand elle va présenter les fêtes, elle va dire Bachodesh Arishon pour Nissan. Par exemple, Shavuot qui tombe en Sivan, la Torah va dire Bachodesh Hashelishi, puisqu'il y a Nissan, il y a Sivan, et ainsi de suite. Tous les prophètes, tous les textes bibliques dénombre les fêtes en les calculant par rapport au mois de Nissan. Mais il y a encore beaucoup plus que cela. C'est que nos sages vont remarquer qu'on peut connaître la date de tous les événements du calendrier juif grâce à Pessah, suivant un système qu'on appelle en hébreu At-Bash. At, c'est formé de deux lettres, Aleph, Tav, Bash, Bet, Shin. Pour indiquer quoi? Que l'on prend d'un côté l'alphabet à l'endroit, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, etc. Et de l'autre côté l'alphabet à l'envers, Tav, Shin, Resh, Kouf, etc. Et on place l'un en face de l'autre. Et l'équation est la suivante. En face de Aleph, qui correspond au premier jour de Pessah, il y a un Tav qui correspond à Tisha B'Av. Tisha Tav. Pour nous indiquer que Tisha B'Av tombe toujours le même jour que tombe le premier jour de Pessah. Cette année, par exemple, c'est quand le premier jour de Pessah? En hébreu, donc mardi. Vous allez voir, Tisha B'Av va tomber cette année un mardi. Après, il y a le Bet. Le Bet, c'est donc le deuxième jour de Pessah, qui tombe cette année un mercredi. Shin, c'est Shavuot. Shavuot va tomber cette année un mercredi. Ensuite, il y a le Resh, qui correspond au troisième jour. Le troisième jour de Pessah cette année, c'est donc un jeudi. Resh, c'est quelle fête? Rosh Hashanah. Cette année, Rosh Hashanah va tomber un jeudi. Après le Resh et le Kouf, on va s'arrêter là, hein, parce que et ça continue jusqu'à la fin. Donc, on était au quatrième jour. Quatrième ou cinquième? Quatrième. Le quatrième jour de Pessah, c'est un vendredi. Il correspond à un événement, c'est un peu plus difficile à trouver. Il commence par un kaf, un kouf. Qu'est-ce qu'il veut dire? Kouf. Non, si vous n'avez pas, cherchez pas, vous allez vous planter. C'est la première lettre de Kriyat HaTorah. C'est quoi Kriyat HaTorah? Quel est le jour par excellence de la lecture de la Torah? Kippour? Carton rouge. Simchat Torah, bravo! Simchat Torah, on termine la lecture de la Torah, on la recommence. Donc, tombera comme le cinquième jour de Pessah. Le quatrième, bravo. Ensuite, il y a, bon, on va encore en faire un parce que, après, enfin du moins, avant le couvre, qu'est-ce qu'il y a dans l'alphabet? Comment vous dites? Carton rouge. Il va plus rester personne, hein. Tzadé. Tzadik ou Tzadé. Quel est l'événement qui commence par un Tzadé? C'est plus facile de trouver que le précédent. Comment vous dites? Tzom, bravo, Tzom. C'est quoi Tzom? Le jeûne par excellence, c'est Kippour. Kippour va donc tomber comme le cinquième jour, c'est-à-dire Shabbat. Donc cette année, si tu veux, Kippour tombera Shabbat. C'est pas mal, hein? Avant le Sadé, vous voulez qu'on termine? Allez, après, avant le Sadé, qu'est-ce qu'il y a? P. Quel événement qui commence par un P? Pourim. Alors, Pourim, mais là, c'est le Pourim qui est passé. Quel jour de la semaine était Pourim? Dimanche, comme le cinquième jour de Pessah. Et avant le P, Aïn. Quel événement qui commence par Aïn? Hein? Je vais vous aider Lag L'agma-mère va tomber donc un lundi. Qu'est-ce qu'il nous reste comme le sixième jour de Pessah? Il reste, je crois, le septième, c'est ça? Ah, c'est le septième, lui? Voilà, c'est bon. Cette année? Non. Attends une seconde là. Hein? Non mais, j'ai dû me planter, non? Voyons, on a dit premier jour de Pessah, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Hein? Mais ça colle parce que Aïn, Tav. Et on arrête les frais. Alors voilà une des caractéristiques de la fête de Pessah, c'est la fête qui indique toute l'année. À présent, j'aborde, évidemment très brièvement, la fête de Pessah à proprement parler, pour vous rappeler deux points essentiels. Par quoi se caractérise Pessah, et qui est d'ailleurs unique? Qu'est-ce qu'on fait à Pessah? D'abord, avant de manger les matzot, on élimine le chametz. Là, c'est une caractéristique unique. Le chametz, il faut livrer une chasse implacable. On traque les moindres traces de chametz, les moindres miettes de chametz. On les élimine, on fait ce qu'on appelle la bédicate chametz, puis après le bihour, on brûle ce que l'on a trouvé, si on a trouvé. Et puis après, on introduit les matzot. Pourquoi cette élimination du chametz, à laquelle je ne veux pas passer sans vous préciser deux choses. La première, c'est que, même si pour nous tous, c'est la maîtresse de maison qui le fait pratiquement, c'est une très grande mitzvah de l'aider. Donc, aider votre maman, si c'est le cas, et les filles, et les garçons, à éliminer le chametz. Il ne faut pas confondre avec les nettoyages de printemps. S'il y en a qui en profitent pour nettoyer les plafonds. Non, mais c'est vrai en plus. Ça, c'est une sorte de déviation, pas méchante, mais qui fait que les femmes juives sont crevées après Pessah, alors que la règle n'est pas là. Ce qu'il faut, c'est éliminer le chametz. Alors, réfléchissons ensemble quelques minutes. Pourquoi un tel acharnement après le chametz? Pourquoi la Torah a dit qu'il faut absolument éradiquer complètement toute trace de chametz? Il y a deux raisons, dont une élémentaire. Qui peut me dire pourquoi il faut éliminer le chametz? Comment? Pas mal. Il botte en touche, comme ça il est sûr de ne pas se tromper. Ceci étant, ce qu'il dit n'est pas stupide, c'est écrit dans la Torah. Certes, mais... Comment? Si vous avez une réponse, soyez gentil, manifestez-vous, exprimez-la clairement. faut pas me dire non. Alors, pourquoi est-ce qu'on élimine le Hametz? Megan, arrête de rigoler, donne-moi une réponse. Megan, c'est quoi? Parce qu'il y en a un beau collier, tu vois, qui ressort bien sur sa robe noire. Tu as vu, je remarque tout, hein. Alors, pourquoi est-ce qu'on élimine le Hametz? Une raison logique. À la portée de tous. Oui? Attendez, j'ai une réponse là. Enfin, du moins, j'ai quelqu'un qui a levé la main. Vas-y. Oui? Parle moins fort, comme ça, j'entends rien. Là, j'ai entendu. Pardon? Ah. Toi, tu dis une chose juste, mais qui est dans la symbolique. J'accepte la réponse, mais ce n'est pas la bonne. Ce n'est pas la première, la vraie réponse fondamentale. Oui, toi, là-bas au fond, chemise à carreaux.
Parce que les ministères n'ont pas eu le temps de faire lever la vache, mais leur mode partir dessus, avant même que la vache soit
par. Oui, mais là, c'est plutôt l'explication pourquoi on mange des matzot et pourquoi on élimine nos khametz. On lui a donné une explication juste mais symbolique. Moi, j'attends une explication pshat. Simple. Hein? Pardon? Oui, mais ça veut dire quoi? Mais pourquoi? Mais Mégane, s'il vous plaît. Mégane a levé le doigt. Après, je te donnerai la parole si elle n'a pas bien répondu. Allez, Mégane. Tu es dans la même perspective que lui, la symbolique. J'attends une réponse, Pshat. Toi? Ah, voilà. C'est aussi simple que cela. Il suffisait d'y penser. On élimine le Hametz pour ne pas le manger. Et pourquoi avec un tel souci, tout à l'heure j'ai dit acharnement, comment? J'entends pas. On en mange toute l'année. Non, attendez, ils ont dit quelque chose de bien, ça m'étonne des garçons, hein, franchement. Il n'y a que qui répond ce soir. Ils ont dit... On élimine le Hametz pour ne pas le manger. Et deuxièmement, quand j'ai demandé pourquoi avec un tel acharnement, ils ont dit, parce qu'on le mange toute l'année. On est habitué au Hametz. Vous connaissez un autre aliment interdit par la Torah qu'on mange tout le temps, sauf une semaine ou deux? Par exemple, le porc. La Torah interdit d'en manger tout le temps. Le cheval. Le lièvre, l'écureuil, le serpent, hein, le lapin. Non, c'est vrai, un animal, où il est permis, où il est interdit. Il est interdit, donc on n'en parle plus. Là, le Hametz, ça nous dit, tu peux manger tout le temps, sauf une semaine. Donc, la difficulté, c'est qu'on est bien évidemment habitué à le manger. Et qu'on ne va pas au départ voir le mal, on risque même d'oublier. Et cette recherche, tout le monde doit y procéder. Moi, je me rappellerai toujours d'un jour, j'étais d'ailleurs en dehors de chez moi, mais enfin, on était donc en voyage, j'avais ma voiture, comme d'habitude, je fais la dédicace à la messe de la voiture, avec l'aspirateur, dans les moindres recoins, sous les sièges, dans le coffre, partout. Et voilà que, à Hola Moen, ce que je vais vous dire, les enfants, ne criez pas, c'est grave, hein. Mais ça m'est arrivé. Hola Moen, on fait en famille une petite promenade. Le voyant d'huile s'allume. Je m'arrête, j'ouvre le capot, qu'est-ce que j'ouvre dans le capot? Une baguette de pain. En plus chaude. et j'ai compris que j'avais pas bien fait mon médicament, et qu'il fallait donc ne jamais s'habituer et penser à tous les endroits dans lesquels normalement on est censé amener du Hametz. C'est vrai qu'en général, du Hametz, on ne met pas sur le moteur d'une voiture, mais enfin. Ça m'est arrivé donc, le côté un peu surprenant. Je peux vous dire que j'avais des boules. Hein. J'avais une de ces envies de la manger, mais je ne l'ai pas mangée. Hein, parce que je n'ai pas l'air, mais je suis religieux. Et donc, voilà le sens simple, premier, mais fondamental de la médica. On élimine le Hametz partout pour ne pas risquer, pendant Pessah, d'en trouver et de le manger. Deuxième caractéristique du Hametz, le mâché-ou. Et là, on en vient peut-être à ton explication symbolique, à vos explications symboliques. Le Hametz, en général, quand une denrée est interdite à la consommation, on est chayav, on est coupable, punissable, si on en mange un minimum qui est le volume kazaït. C'est quoi kazaït? Le volume d'une olive. Le chametz, le mâché-ou. Si quelqu'un donc consomme un gramme de chametz, il a transgressé la Torah. Donc voilà pourquoi notre recherche est inlassable. Il faut aller partout, penser à tout. Et on a un très grand mérite à l'éliminer. Maintenant, tout à l'heure, tu as dit toi, que le Hametz, on l'élimine également comme le Yetzer Hara pour donc s'en débarrasser totalement. C'est vrai. Mais le Harizal dit autrement, en plus, il dit davantage du moins. Il dit que si on se fatigue bien pour éliminer le Hametz, mais fatigué au point de transpirer, on est assuré de ne pas faire de Averot toute l'année. Donc, mes chers amis, moi, j'ai, en lisant ça il y a des années, j'ai compris toutes les bêtises que je fais dans l'année, ça vient du Hametz que je n'ai pas assez cherché. Donc, prenons notre courage à deux mains et deux pieds d'ailleurs, et cherchons le Hametz partout, en nous fatiguant, en comprenant que là, il y a un enjeu qui dépasse encore bien plus largement l'élimination d'une nourriture interdite. Voilà ce qui caractérise d'abord la fête de Pessah. Puis ensuite vient, évidemment, l'obligation de manger de la matzah. D'abord, la Torah nous demande d'éliminer le Hametz pendant 7 jours ou 8 en dehors d'Israël. Mais la matzah, on est venu de la manger combien de temps? Hein? Combien de temps on doit manger de la matzah? J'ai bien dit on doit. Pourquoi 2 jours et pas 3? Pourquoi vous avez sorti 2 jours? Un soir, le premier soir où on pousse la reste, le deuxième soir aussi, on a l'obligation de manger de la matzah. Voilà pourquoi au moment du CDM, on dit à Cherki de Chanou Bimizotavet Sivanou à l'Achidat Matzah. Si le reste du temps, je ne mange pas de Hametz, je veux manger des fruits, des légumes et autre chose, de la viande, du poisson, je peux. Par contre, le soir du Seder ou des 2 Sederim en fonction de la Haaretz, je suis obligé de manger de la matzah. Alors là, je veux donner tout de suite, pour ne pas oublier, une précision. C'est quoi manger de la matzah? C'est en prendre, terminer ma phrase, combien? Bravo, enfin les réponses arrivent de ma gauche. C'est vrai qu'en général, à gauche, il n'y a pas beaucoup de réponses, mais enfin bon. C'est bravo, 30 grammes au minimum pour être quitte, c'est-à-dire 15 litres. Alors 30 grammes, notez bien ça, dans une matzah, machine classique, celle qu'on trouve dans le commerce, c'est un peu plus que la moitié d'un médecin. et dans toutes les matzot vendues dans le commerce, vous avez un pointillé au milieu qui coupe la matza en deux. Ce n'est pas seulement pour des raisons de stockage ou de commodité, c'est pour indiquer que le kazaïd, c'est un peu plus que cela. Donc, si vous voulez bien accomplir la mitzvah, le soir du seder, il faut manger le kazaïd de matzah, au moment où il est prescrit dans le seder, et le manger sans s'interrompre, et le plus vite possible. Ne vous étouffez pas, mais enfin, c'est vrai qu'il faut le consommer, d'après certains, même en 4 minutes, ce qui demande quand même un certain engagement. D'après d'autres, un peu plus, 7 à 8 minutes, mais normalement, on s'efforce de le faire en 4 minutes. Ensuite, le soir du CDR, il y a d'autres choses qu'on doit manger. Ça, je ne vous donne pas le détail du CDR parce qu'il y a tellement de agadotes et elles sont tellement, en général, bien faites. Moi, j'insiste simplement sur un point. Je vous demande à tous d'être vigilants sur les chiourim, sur les quantités qu'il faut consommer à chaque fois dans le massa, le maror, le charoset, pour être quitte. Autrement, la mitzvah n'est pas convenablement accomplie. Alors maintenant, je voudrais arriver à la définition légale du chametz. C'est quoi le chametz? Là, j'attends pas des réponses approximatives ou vagues. Je veux des réponses précises. Comment vous dites? Exprimez-vous intelligiblement. Comment, mademoiselle? Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est un peu bidon, hein? Alors écoutez bien. Écoutez bien. Est appelé chametz. Une des 5 céréales selon la Torah. La Torah énumère 5 céréales qui sont le blé, l'épeautre, l'orge, le seigle et l'avoine. Ces 5 céréales, si elles sont en contact avec de l'eau pendant un minimum de temps, automatiquement elles gonflent et elles deviennent chametz. Donc, voilà la définition légale du chametz qu'il convient d'éliminer totalement. Mais si une des 5 céréales n'a pas été en contact avec de l'eau avant ou pendant Pessah, elle ne peut pas devenir chametz. Devient chametz que lorsqu'il y a eu chametz veut dire lever. La pâte ne lève que si elle est en contact avec de l'eau. Et une pâte doit être faite de ces 5 céréales. Alors, juste à titre d'exemple, le riz, par exemple, on peut en manger? Hein? Les Tunisiens, un peu, pas trop, ne soyez pas trop chauvin. Pourquoi on peut manger du riz? Hein? Carton rouge. Mais c'est très simple. Hein? Par rapport à... Non, non, arrêtez l'épidémie et le tménique tunisien, là. Non, non, je... Pourquoi on peut manger du riz à Pessah? J'ai donné la réponse tout à l'heure. Pardon? Ce n'est pas une céréale, bien sûr. Ce n'est pas une céréale. Maintenant, la question, la vraie question, c'est de savoir pourquoi il y en a qui ne mangent pas. Parce que manger du riz, pourquoi pas? Comment, à l'époque, quoi? J'entends pas, approche-toi. On donne le micro, là-bas. Voilà, allô. Là, on a une réponse qui nous dit... Je vous explique pourquoi certains mangent du riz. Ne mangent pas du riz, pardon.
Parce que les champs de riz et les champs de blé, ils étaient côte à côte.
Plus simple que ça, mais c'est juste. Mais c'est que tout simplement, il peut y avoir... Écoutez bien. Les Ashkenazis ne mangent pas du blé, du riz, parce que il peut y avoir des grains de blé qui se sont mélangés au riz. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, certaines familles, même sfarades ou tunisiennes, ont le minhag. Je me rappelle que ma mère, qui n'était pas un puits de connaissances, mais qui connaissait très bien les traditions, elle achetait le riz avant Pessah et elle faisait la bédica du riz avant, pour être sûr qu'il n'y avait pas de grains de blé mélangés avec. Et que, évidemment, en faisant bouillir le blé, le riz, on faisait bouillir le blé, donc du hametz. Il y a aussi une autre raison très simple, c'est que lorsque le riz est mouillé, vous avez déjà observé du riz mouillé, il gonfle, bravo, il s'ouvre. Exactement comme le processus de la fermentation du blé. Il y a donc une similitude qu'on veut éviter. C'est la raison pour laquelle certains, les raisons, les deux, s'abstiennent de consommer du riz. Maintenant, la raison pour laquelle, par exemple, en Tunisie ou ailleurs, les gens mangeaient beaucoup de riz, d'abord parce que les Tunisiens, ils sont maigres. Non, tout simplement que c'était un aliment répandu, bon marché, et qui était un des rares que l'on trouvait. Donc, il fallait bien nourrir les familles, les enfants, etc. On se rabattait sur des aliments qui puissent un peu caler l'estomac. D'où le développement considérable du riz. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais les Chinois nous ont imités. Presque tous les Chinois, ils sont d'origine tunisienne. Je fais une enquête. Le riz de ma bêtise. Ceci étant, n'était pas mal quand même. Alors maintenant, question non pas piège, mais test. Quelle différence entre le hametz et la matzah? Qu'est-ce que c'est que la matzah? C'est de la farine de blé avec de l'eau. Et le hametz, c'est de la farine de blé avec de l'eau. Quelle différence? Comment? Voilà. C'est que la matzah, dès qu'elle est en contact avec de l'eau, immédiatement, on la met au four. La chaleur du four a comme effet de bloquer immédiatement la fermentation et donc d'éviter la production de hametz. Voilà pourquoi. J'en arrive au point que je voulais maintenant vous expliquer très rapidement. C'est la fabrication de la matzah. La matzah doit être fabriquée par des gens vigilants, font très attention à ce que, justement, ce phénomène ne se produise pas. Et donc, ils procèdent à la fabrication qui, généralement, dans toutes les matzahs qu'on trouve dans le commerce, est mécanisée. Et les chaînes de fabrication, j'espère que c'est pas le mariage, ça voudrait dire que ça tourne mal. Orage, mais pas désespoir. Alors, donc, j'étais en train d'expliquer... Qu'est-ce que j'étais en train d'expliquer, déjà? La fabrication de la matzah. Donc, on est très vigilant pour éviter tout contact de l'eau avec la farine pendant la fabrication de la matzah. et ont été mises au point des chaînes mécanisées qui font tout le travail en moins de 18 minutes. Parce que beaucoup de maîtres considèrent que le khametz, pour devenir khametz, l'eau avec la farine, a besoin de 18 minutes. Donc là, aujourd'hui, c'est relativement facile de le faire. Maintenant, il y a un point dont je tiens à vous parler, c'est la matzah faite à la main. Non, attends, j'arrive à Shmoa, justement. Il y a là une confusion. Il y a deux choses. Il y a la matzah, comme a dit quelqu'un ici, Shmoa, et la matzah faite à la main. On appelle matzah Shmoa une matzah faite à partir de blé dont on a surveillé, Shmoa, ça veut dire garder, surveiller, depuis le moment où il a été coupé dans les champs. Donc ça demande évidemment plus de travail. Parce que tant que, évidemment, les épis de blé sont en terre, ils ne peuvent pas devenir khametz. Mais dès que le blé est coupé, il faut le surveiller. Il peut y avoir eu une pluie, un orage, qui mouille le blé coupé, et qui risque de le rendre khametz. Donc la matzah Shmoura est une matzah à laquelle on a fait attention depuis qu'on a coupé le blé. Ensuite, quand on l'a transformé en farine, on a veillé à toutes les étapes qui passent le contact. On a donc surveillé, entre guillemets, la matzah. Maintenant, il y a une deuxième dimension, qui est la matzah faite à la main. Bon, qui est considérée un peu comme le top, avec toutefois un bémol que je vais tout de suite indiquer. La matzah à la main. Faite à la main. Pourquoi est-ce qu'elle est tellement chère, je dirais, et apprécié et recherché? Quelle est la dimension que la fabrication de la matzah à la main ajoute par rapport à la machine? Je pose la question. Réponse facile, hein? Comment mademoiselle, j'ai pas entendu. Hein? La précision. Je crois au contraire. Mais il y a une chose que la matzah faite à la main ajoute que rien ne peut la remplacer. Bien sûr, bravo, qu'est-ce qu'elle dit ça? Bravo. Le jeune homme là-bas dit la kavana, c'est-à-dire l'intention, la ferveur. Une matzah a besoin d'être fabriquée lishma, c'est-à-dire l'échem matzot mitzvah, pour faire de la matzah de la mitzvah. Donc, une machine ne peut pas être lishma, elle ne peut pas avoir une intention. Une machine, elle travaille avec précision, justement. Voilà pourquoi j'ai dit au contraire tout à l'heure. C'est-à-dire, elle fonctionne toute seule, elle est réglé, mécanisé, sur une minuterie, tout est impeccable, on ne risque pas de passer le temps. Mais la machine n'a pas d'intention possible. Donc la valeur de la matzah à la main, c'est qu'elle a à chaque matzah une intention. Mais le bémol, c'est quoi le bémol? Quel est le moins de la matzah faite à la main par rapport à la machine? Comment vous dites? Je n'entends pas. Non, non, ça, d'abord, bien sûr. On pourrait donc se tromper dans le temps et outrepasser 18 minutes. Mais il y a une autre chose aussi. Il peut y avoir dans la fabrication annuelle toutes sortes d'imperfections liées à l'intervention humaine. L'intervention humaine est quelque chose d'unique. C'est que l'intention accompagne le geste. Mais l'intervention humaine a une faiblesse, c'est qu'elle est moins précise, moins ponctuelle que la machine. Alors voilà pourquoi on trouve dans le commerce la matzah ordinaire, la matzah shmoura, on l'a maintenant expliqué celle dont le blé, les épis ont été contrôlés depuis, on les a coupés dans les champs. La matzah, qui est Shmoura, on l'a dit. La matzah, qui est fabriquée à la machine, mais avec la matzah, avec la farine Shmoura. Et enfin, la matzah Shmoura, avec la farine qui a été moulue. Et toutes les opérations qui suivent ont été faites exclusivement à la main. Ceci pour vous expliquer les différences de prix notables qu'on peut constater entre la mécanisation et puis les autres types de fabrication de matzah. Alors, ma recommandation pour vous tous, c'est qu'on s'efforce d'avoir au moins pour les sdarim, les deux premiers soirs, ou d'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, la consommation de matzah est obligatoire. La matzah shmoura, si possible, faite à la main. Et ne la trouvez pas trop chère. Moi, avec ma famille et mes élèves, j'en fabrique tous les ans, depuis pas mal d'années. Je peux vous dire que ça prend énormément de temps. Pour peu qu'on paye des gens à le faire, même un minimum, c'est un travail considérable. Donc, n'oubliez pas, ne commencez pas à dire que la cache-route c'est cher, etc., etc. C'est pas vrai. Une mitzvah, c'est une mitzvah. Quand on veut bien la faire, il faut mettre le prix. Donc, je tenais à apporter ces précisions sur la matzah. Et choisissez au moins pour les sédarim des matzot faites à la main et de la matzah shmoura. Maintenant, deux dernières précisions. Pendant tout Pessah, je vous demande, je vous recommande de ne consommer que des produits surveillés. Donc, ils sont eux-mêmes cachers de Pessah. La semaine dernière, mes petits-enfants m'ont montré dans un paquet de bonbons la composition, il y avait marqué dedans, traces de céréales. Il y a énormément de céréales qui rentrent dans la composition de toutes sortes de choses, y compris les confiseries. On peut dire qu'il n'y a aucun souci. C'est pas vrai. Sans compter que comme l'interdiction du Hametz et de Machéou, les fabrications industrielles sont évidemment préoccupées surtout par la rentabilité et ne prennent pas le temps entre deux utilisations de laver toute la chaîne, toute la machine. Voilà pourquoi même si un produit est au-dessus de tout soupçon qu'il ne contient pas lui-même proprement parlé de Hametz, il se peut que dans la même machine juste avant, on ait fabriqué une denrée qui était Hametz. Et on n'a pas lavé le matériel, parce qu'évidemment, les entreprises sont donc en train de fabriquer des produits les plus performants possibles, qui leur reviennent le moins cher possible. Donc, vous voyez, c'est très simple. Aujourd'hui, c'est extrêmement facile. Dans tous les épiceries cachères, les supermarchés cachères, et ils sont nombreux, bon, Hachem à Paris, par exemple, acheter que des choses où il y a marqué cachère les Pessah en ayant vérifié que soit sous le contrôle d'un rave. C'est vrai parce que là aussi il faut regarder un peu s'il y a un tampon. Sérieux parce que si par exemple un matzah est fabriqué sous la surveillance des joueurs de l'équipe de Chelsea, il y a de fortes chances qu'il n'ait pas la compétence voulue. Pas seulement d'ailleurs dans les matzahs mais aussi sur le terrain. Bon, c'est un autre sujet ça. Alors, je voudrais juste exposer rapidement une dernière idée pour vous laisser ensuite le temps de poser quelques questions avant de faire l'office du soir, comme à chaque fois, à la fin de notre cours. Tout à l'heure, donc, ce jeune homme a dit que le Hametz symbolisait le Yetzer Hara. C'est très juste. Mais il y a encore d'autres symboliques utilisées par nos maîtres pour parler du Hametz. C'est que bien évidemment, la matzah est un pain de liberté, pas seulement parce qu'on l'a mangé en sortant d'Égypte, mais c'est un pain qui montre notre capacité à nous passer de l'essentiel. Bon, il y a une scène qu'on peut observer tous les jours à Paris dans la rue, qui pour moi est un flash significatif. Observez des gens qui rentrent dans une boulangerie tous les jours à midi en sortant du travail, ils achètent du pain, et qu'est-ce qu'ils font tout de suite? Ils le mangent. Bon, ils n'ont pas besoin de se laver les mains parce qu'ils ne sont pas juifs. Mais qu'est-ce que ça démontre? Que l'homme est incapable de se retenir devant la nourriture. J'ai faim, il y a du bon pain. En plus, le boulanger, il est malin, il s'arrange pour qu'il y ait une bonne odeur qui sorte de ses fours. Et l'affaire est dans le sac. Les gens se précipitent sur la nourriture et sont impatients de manger. C'est légitime, ils ont faim. Et moi, chaque fois que j'observe cette scène, je suis très fier d'être juif. Je me dis, qu'est-ce que m'a apporté ma religion? Elle m'a appris à apprendre à me retenir, à dominer ma tava, mes instincts. Je me souviens un jour, j'avais un très bon ami plus âgé que moi qui avait connu les camps de concentration. Il m'a raconté un jour que le plus beau jour de sa vie dans les camps, c'était Kippour. Il me disait pourquoi? Parce que de toute façon, dans les camps, il n'y avait rien à manger. Mais dès que quelque part, on trouvait la moindre trace de nourriture, les gens se jetaient dessus comme si des animaux. Souvent d'ailleurs, les capots, ils marchaient même, les nazis, quand ils apportaient leur pitance aux déportés, à la dernière minute, ils apportaient par exemple une marmite avec un peu de soupe dedans, donner un coup de botte dans la marmite pour qu'elle se verse par terre. Pourquoi? Il faut avoir le plaisir sadique de voir les déportés à quatre pattes en train de lécher la soupe par terre. Tellement la nourriture avait un prix vital. Et il m'avait dit, lui, qu'il n'était pas un homme pieux. Hein. Il me disait, mais mon plus beau jour, c'était Kippour. Parce que de toute façon, on ne mangeait pas. Mais moi, je ne mangeais pas parce que j'avais choisi de ne pas manger. Voilà la force du juif. Il est capable de se maîtriser, même dans un cas comme celui-ci, qui m'a paru un cas caractéristique et illustrant bien l'idée que je voulais apporter pour vous.
Le cours est terminé. Nous espérons que le cours a été apprécié. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. Retrouvez également sur le site ToraBox www.torah-box.com trois enseignements de judaïsme par des rabbanim différents sur d'autres sujets variés et sous toutes les formes, audio, vidéo ou sous forme d'articles. À bientôt.